Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir donos allá, oprimidas as mulleres, queremonos rebelar. Ergámonos mulleres, rachemos.
Bonjour, bienvenue sur Radio Galère pour La Révolution sera féministe, un nouvel épisode en direct aujourd'hui, mercredi 11 novembre. Voilà, alors pour commencer, bien, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement et je pense bien surtout aux femmes évidemment qui sont de plus en plus invisibilisées. Pendant cette période de confinement, on ne les voit que très peu apparaître dans les médias. On observe un grand brouillard autour des sujets féministes qui passent toujours au dernier plan. Nos revendications passent au dernier plan devant les risques pandémiques. Et voilà, je pense aussi à toutes les promesses qu'on entend sur le déblocage pour l'économie. Il semble que de l'argent magique existe par milliards, alors que rien ou presque rien n'a été fait pour les femmes. Le milliard que l'on demandait n'a jamais été donné. Voilà. Pour commencer, une petite citation de Christiane Taubira, à laquelle je pense, que je salue, donc, qui dit « Nul n'affirme son humanité au mépris des autres, nul ne peut ouvrir son avenir en brouillant celui des autres ». Ensuite, comme actualité choisie, j'ai choisi de repenser aux inégalités salariales qui persistent. Il se trouve que le 4 novembre à 16h16, et ce jusqu'à la fin de l'année, les femmes ont commencé en France à travailler gratuitement de par les inégalités salariales hommes-femmes. Donc en moyenne cette année, les femmes travaillent donc 39 jours de plus que les hommes pour un même salaire. À poste égal, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France en 2020 est de 16%. Cet écart a baissé de seulement 0,1% en 8 ans, mais c'est sans compter la dévalorisation salariale des emplois à prédominance féminine et les emplois à temps partiel. Voilà, donc comme c'est un peu compliqué de comprendre ces écarts, sont pas toujours très bien expliqués en fait, eh bien j'ai trouvé une vidéo très très pédagogique sur le site 50-50 pour comprendre un peu mieux d'où viennent les inégalités hommes-femmes, quels sont tous les facteurs et du coup les chiffres sont différents suivant de quoi on parle. Donc je vous laisse écouter ce son-là donc, qui s'intitule « D'où viennent les inégalités hommes-femmes ».
Alors, il y a plusieurs choses qui permettent de comprendre ces différences sur le marché du travail entre hommes et femmes. La première chose, c'est de regarder le temps de travail. Les femmes et les hommes ne travaillent pas la même durée, le même temps de travail. Tout simplement, les femmes sont plus souvent en temps partiel que les hommes. En France, par exemple, les femmes sont 4 fois plus en temps partiel que les hommes. Ça peut être du temps partiel subi ou du temps partiel choisi. Mais évidemment, ça explique une partie, mais seulement une partie de l'écart salarial. Si on regarde uniquement les individus qui travaillent à temps complet, on observe toujours un écart entre les hommes et les femmes en termes de salaire autour de 16%. Donc il faut regarder d'autres explications. Et la plupart des chercheurs s'accordent pour dire qu'une des explications potentielles, c'est notamment les secteurs d'activité qui sont différents pour les hommes et les femmes. Donc on a un marché du travail aujourd'hui en France qui est fortement ségrégué, avec des emplois typiquement féminins et des emplois typiquement masculins. Et les emplois typiquement dans des secteurs typiquement féminins, donc on peut penser à la santé, l'éducation, c'est des emplois où en général les salaires sont moins élevés. Donc cette sélection dans l'emploi explique en partie cet écart salarial. Et elle s'explique cette sélection par la persistance de stéréotypes de genre, mais aussi par le fait que les filles et les garçons ne suivent pas les mêmes formations. Donc aujourd'hui, les filles suivent des études plus longues que les garçons, mais dans des formations qui mènent à des emplois moins bien rémunérés. Donc par exemple, elles sont surreprésentées dans tout ce qui est formation paramédicale, sociale, littéraire. Elles représentent entre 70% et 85% des effectifs et sous-représentées dans des formations d'ingénieurs où elles représentent qu'un quart des effectifs du supérieur. Donc voilà une autre piste de réflexion qui permet de comprendre cet écart. Une autre explication pour comprendre cet écart salarial, c'est de regarder ce qui se passe dans la sphère privée et dans la vie familiale. Donc on a encore des inégalités en termes de répartition des tâches domestiques et la plupart des chercheurs s'accordent pour dire que la maternité explique en partie l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Tout simplement parce que suite à une maternité, les femmes peuvent choisir davantage de s'orienter vers du temps partiel ou encore ça va tout simplement mener à des interruptions plus ou moins temporaires de carrière. Donc la maternité va expliquer cet écart salarial parce que les femmes sont encore aujourd'hui celles qui sont les plus en charge de la vie familiale et donc elles vont choisir des entreprises qui ont des rémunérations plus faibles mais qui proposent d'autres avantages comme des horaires plus flexibles ou une distance moins éloignée du domicile.
Voilà, donc j'espère que cela a été un peu éclairant. Donc je vous disais que nos revendications féministes passent souvent au dernier plan en ce moment. Donc en voici un autre exemple à propos de l'IVG. Alors que l'Assemblée nationale avait adopté début octobre une proposition de loi, ces 79 députés et sénateurs de tous bords exhortent le gouvernement à l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat pour en accélérer l'adoption. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça a été adopté début octobre, mais ça n'a toujours pas été vraiment adopté. Donc il y a 79 députés et sénateurs qui se mobilisent. Donc ça, c'est bien pour demander au gouvernement de vraiment l'inscrire à l'ordre du jour. Mais comme ça risque de ne pas suffire, je vous propose, si ça vous intéresse, eh bien, de vous mobiliser en retrouvant, donc vous retrouvez sur Internet une pétition du collectif qui s'intitule « Avortement en Europe, les femmes décident ». Donc je le mettrai dans les références du podcast si vous ne le trouvez pas. Pour que cette proposition de loi sur l'avortement qui est donc actuellement bloquée dans la navette parlementaire soit vraiment reprise en charge par le gouvernement. Donc cette proposition de loi, je vous rappelle en quoi elle consistait, elle venait de plusieurs horizons politiques, elle visait à faire progresser le droit de l'avortement en France, diverses mesures étaient prévues, donc l'allongement des délais pour pouvoir avorter de 12 à 14 semaines de grossesse, la suppression de la double clause de conscience des médecins, la possibilité donnée aux sages-femmes de pratiquer des IVG chirurgicales, c'est-à-dire par aspiration. En effet, l'avortement peut être encore un long parcours de la combattante en France. Il faut savoir qu'il y a 5000 femmes qui ont dépassé les délais légaux et qui partent chaque année avorter à l'étranger. Certains médecins contribuent à cet état de fait en se drapant dans leur clause de conscience. Or, on le sent, cela grippe dans les rouages. Olivier Véran, ministre de la Santé, n'a-t-il pas déclaré le 23 octobre qu'il n'était pas sûr que la proposition de loi, je cite, « aille au bout ». Ce serait une clause de procédure qui s'opposerait à cette proposition de loi. Et il dit qu'il n'y a pas de groupe Écologie, Démocratie et Solidarité qui a porté cette proposition de loi au Sénat et il n'y en a plus à l'Assemblée nationale puisqu'une députée l'a quittée. Donc la navette parlementaire ne peut se dérouler. Voilà ce qu'il dit. Mieux, le gouvernement se dit maintenant suspendu à l'avis du Comité consultatif national d'éthique qu'il a saisi. Le lobbying se met aussi de la partie et agite des difficultés techniques. L'Académie de médecine craint des manœuvres chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes. Dixit, ce qu'ils ont dit le 12 octobre. Il est quand même étonnant que d'autres pays d'Europe savent éviter l'écueil des entre guillemets, manœuvres chirurgicales dangereuses, tels le Royaume-Uni, où on peut avorter jusqu'à 22 semaines de grossesse, ou les Pays-Bas, où on peut avorter jusqu'à 20 semaines. L'Ordre des médecins en France estime, lui, que ni la disparition de la clause de confiance, ni de conscience, pardon, ni l'allongement des délais légaux d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines ne permettront de répondre aux difficultés que peuvent aujourd'hui encore se poser à nos concitoyennes souhaitant avoir recours à une IVG. Je cite ce qu'ils ont dit le 10 octobre. Donc, petit rappel, acquis de haute lutte en 1975 en France. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de la lutte en France pour obtenir ce droit, je vous propose d'aller voir un podcast que vous trouverez, qui est assez récent, où j'avais invité Annick Carsanti de Femmes Solidaires Marseille à nous raconter cette lutte à laquelle elle avait participé. Donc en fait, acquis de haute lutte donc en 1975 en France, le droit à l'avortement n'a jamais cessé d'être attaqué par les opposants aux droits des femmes. Pourtant, la liberté à disposer de son corps, le droit à l'avortement et à la santé sont des droits fondamentaux pour construire des sociétés où l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe et dans le monde soit enfin reconnue. Voilà, donc nous demandons ce que demande donc ce collectif, si vous signez la pétition, c'est eh bien d'adopter enfin cette proposition, que les délais légaux pour avorter soient harmonisés avec ceux des pays les plus progressistes en Europe, que les États tendent vers une dépénalisation totale de l'avortement. On demande aussi des moyens financiers pour que les centres pratiquant l'avortement et les centres de planification soient accessibles à toutes sur l'ensemble des territoires. On demande aussi des campagnes d'information tout public pour pouvoir en parler librement, sans tabou ni jugement. Et on demande aussi qu'une information et une éducation à la sexualité soient effectives dans tous les établissements scolaires, tels que stipulés pourtant dans la loi du 4 juillet 2001, et ce qui est en fait très peu appliqué. Et on demande aussi que la formation technique d'avortement et à l'accompagnement fasse partie intégrante de la formation initiale des professionnels de santé, médecins et sages-femmes. Voilà. Alors toujours en ce qui concerne l'avortement, une autre actualité, cette fois en Pologne, qui est une actualité pour une fois plutôt heureuse, c'est que la mobilisation féministe peut vraiment payer. La preuve, ça s'est passé en Pologne. Le gouvernement polonais a suspendu la décision du tribunal constitutionnel concernant la quasi-interdiction de l'avortement. Donc c'est une première victoire pour les droits des femmes. Pour rappel, le 22 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais, très étroitement contrôlé par le pouvoir national conservateur, avait rendu un arrêté jugeant que seules les femmes en danger de mort, victimes de viol ou d'inceste, pourraient désormais avoir recours à l'avortement. C'est une décision qui réduisait très drastiquement le droit qui rendait pratiquement impossible à l'IVG en Pologne. Pourtant, la législation déjà en matière d'avortement en Pologne est déjà l'une des plus restrictives en Europe. Voilà. Alors, une autre actualité, donc je vous parlais du manque de financement pour les femmes, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Eh bien, il y a un communiqué de presse de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui date du 6 novembre, qui en parle. Et qui dit que déjà en 2019, les associations engagées dans la démarche lancée par le gouvernement lors du Grenelle avaient alerté sur l'insuffisance des moyens consacrés à l'hébergement des femmes victimes de violences, en indiquant qu'il manquait au moins 2000 places d'hébergement spécialisé et que le financement qui était prévu pour les 250 places d'hébergement d'urgence qui avaient été annoncées était largement insuffisant pour les accueillir et les accompagner dans de bonnes conditions. Depuis, le Premier ministre a annoncé la création de 1000 places supplémentaires d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales en 2021. Et il y a un projet de loi de finances qui témoigne encore une fois d'un manque criant de financement. Les associations féministes estiment que pour héberger et accompagner toutes les femmes qui en ont besoin, en particulier dans des structures spécialisées, il manque près de 32 millions d'euros au budget de l'État pour 2021. Ces crédits supplémentaires permettraient d'améliorer considérablement la qualité des places créées pour prendre en compte les coûts importants que représente la formation des intervenants sociaux et intervenantes sociales et aussi l'accompagnement psychologique, social, juridique à la parentalité, le soutien aux enfants co-victimes, la sécurisation des lieux d'hébergement, la fourniture de produits de première nécessité, le fait de disposer de chambres séparées pour les enfants. Voilà, donc vous pouvez en savoir plus si vous allez voir donc sur, vous tapez Fédération nationale Solidarité Femmes. Voilà. Alors j'ai retenu une autre actualité qui me semble bien importante par rapport à la justice. Et voilà, il s'agit du cas dont vous avez dû peut-être sans doute entendu parler, si vous suivez un peu ce qui se passe, d'Adriana Sampaio, où enfin la légitime défense a enfin été reconnue pour cette femme victime de violences conjugales. Donc c'est une victoire et c'est un moment extraordinaire qui a été vécu. Donc ceci grâce à la mobilisation d'associations féministes, notamment l'association Les Effrontées. Donc Adriana Sampaio, je vous rappelle l'histoire, elle avait été condamnée en première instance à 7 ans de prison ferme pour avoir tué son conjoint violent alors qu'il rouait de coups sa fille aînée et la menaçait de viol. Elle a enfin été acquittée, donc tout récemment, à l'issue de son procès en appel. Donc l'erreur judiciaire a été enfin établie et la légitime défense reconnue. Du coup, elle va être en droit de demander des dommages et intérêts à la justice pour le préjudice subi, étant donné qu'elle a dû déjà effectuer donc 2 ans de détention provisoire, rendez-vous compte, entre 2015 et 2017. Donc, si tant est qu'une réparation puisse être à la mesure de ce qu'elle a vécu, elle a été privée non seulement de sa liberté, mais elle a été privée aussi de son enfant, puisque sa petite fille de 8 ans est actuellement placée. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il est rare que la justice reconnaisse ses erreurs. C'est pourquoi c'est vrai que cette nouvelle, on doit vraiment se réjouir de ce verdict qui vient invalider la décision qui avait été prise par la première cour d'assises de Melun en 2019. Adriana Sampaio est bien une victime de violences conjugales. Pourtant, la justice ne l'avait jamais traitée et reconnue comme telle. Son premier procès avait été le théâtre d'une justice absurde, humiliante, inhumaine. Et le dernier procès qui vient de se passer a été tout autre, grâce donc à la cour d'assises d'appel de Créteil. Même si nous avons pu constater une fois de plus que de nombreux manques subsistent dans la formation de la justice. En effet, le verdict donné, à savoir la reconnaissance de la légitime défense conduisant à l'acquittement demandé par les avocats d'Adriana, n'était pas gagné d'avance. Malgré une cour manifestement impartiale, voire bienveillante, nous avons pu observer beaucoup de failles dans le déroulement du procès, comme le témoignage d'experts d'expertes non formés à la victimologie, la traumatologie, sciences qui ont mis à jour les phénomènes d'emprise du conjoint violent sur sa victime, de dissociation de celle-ci, de sidération. Toutes choses encore trop méconnues, et là ça a été le cas, donc des magistrates et des policiers ou policières. L'enquêtrice appelée à la barre a paru compétente et humaine. Pourtant, la défense a fait valoir que lors de l'interrogatoire d'Adriana en 2015, elle a minimisé la question des violences conjugales subies par elle et totalement occulté la dangerosité que représentait son conjoint pour sa fille Adrielie sur le plan de la violence sexuelle, alors qu'il l'avait par deux fois agressée sexuellement avant les faits. Ces éléments sont pourtant au cœur des faits puisqu'ils en sont la cause directe. La peur du viol de sa fille a été déterminante dans la réaction d'Adriana. Plus elle a craint de perdre son enfant devant la violence enragée de son conjoint. Ainsi, certes mise en cause pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Adriana n'avait jamais été traitée et reconnue comme étant aussi une victime. Il en a été de même pour sa fille Adrielie qui avait été mise en garde à vue après les faits et qui pourtant donc avait subi une tentative de viol et pour qui le parquet donc n'avait pas reconnu d'évaluation du retentissement psychologique. Donc en 2019, l'avocat général avait pris énormément de place pendant le procès. Il avait interrogé très longuement la mise en cause, la discréditant sur des faits étrangers à l'affaire en disant qu'elle avait eu 5 enfants avec 3 hommes différents, qu'elle était une femme facile, entretenue. Il lui a été presque reproché de n'avoir pas avorté de sa dernière fille qui avait 6 mois au moment du procès. Au mépris de toute logique et de toute humanité et faisant preuve d'un arriérisme et d'un sexisme inimaginables. C'est de tous ces manquements, cet enchaînement de dysfonctionnements judiciaires qu'était issue cette peine absurde et injuste de 7 ans de prison. Donc heureusement, ce nouveau procès a tout changé. Donc l'avocat général a requis en appel 5 ans de prison, assorti d'un sursis de 3 ans. Une peine qui lui permettait de ne pas trop désavouer en fait le parquet de Melun, tout en garantissant quasiment à Adriana de ne pas retourner en prison, puisqu'elle avait déjà effectué 2 ans d'incarcération et que le jury prononce rarement une peine supérieure aux réquisitions. Moi, ce que je retiens, ce qui me choque un peu quand même, c'est que voilà, ça va lui permettre tout ça, mais enfin, on a quand même requis en appel 5 ans de prison. Donc, waouh, je trouve ça quand même incroyable. Donc, les avocats et avocates ont plaidé la légitime défense d'une mère qui a protégé son enfant comme elle a pu, faisant valoir la gradation des moyens employés de la voix. Elle a employé la voix, elle s'est interposée physiquement, elle n'a pas tout de suite utilisé son couteau, elle l'a utilisé pour tuer, mais pas pour stopper les coups donnés. Non, elle ne l'a pas utilisé pour tuer, mais pour stopper les coups donnés. Ils ont finalement eu gain de cause, puisque l'irresponsabilité pénale pour cause de légitime défense a été enfin reconnue par la Cour, donc ce qui est extrêmement rare en appel pour une femme victime de violences conjugales qui s'est défendue d'un conjoint violent et l'a tuée. Une victoire qui, nous espérons, pourra faire jurisprudence. Car comme l'a fait valoir la défense, aujourd'hui, la justice sanctionne les femmes victimes et leur refuse le droit de se défendre en ne leur laissant que le choix de fuir ou subir. D'ailleurs, ça me fait penser que voilà, c'est un sujet dont je voulais vraiment parler dans le cadre d'une émission entière, il faudrait au moins, pour parler des problèmes de la justice qui est tout à fait patriarcale. Voilà, donc il est temps pour la justice de comprendre ses erreurs et de commencer à défendre les femmes victimes de violences et les reconnaître comme victimes, même lorsqu'elles ripostent pour se défendre. Pour cela, la formation initiale et continue des magistrates et des enquêteurs ou enquêtrices est indispensable, que seule une politique volontariste pourra mettre en place. Voilà, donc je pense que je vais faire une petite pause musicale avant d'aborder d'autres sujets, pour pouvoir un peu reprendre ma respiration. Du coup, désolée du petit temps d'attente, mais il faut que je retrouve. Voilà. Donc, je vais choisir de vous faire écouter Johnny Cash. Ah, merde. Mince. Ah, bon, j'ai un petit problème. J'arrive pas à le faire partir. Mince. Excusez-moi. J'aimerais bien y arriver. Ça veut pas. Ah, mince. Attendez. J'insiste un peu parce que ça serait vraiment bien de faire une pause musicale. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Alors. Voilà. Bon, du coup, j'ai changé de chanson. C'est Chanson sans peur, une chanson féministe contre les féminicides. Une très, très belle chanson.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas.
Justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra.
Je reviens pour la révolution féministe. Désolée pour les petits problèmes techniques que j'ai eus. Merci de votre patience et j'espère que j'en aurai plus. Alors, je voulais donc aborder maintenant une thématique que j'ai jamais osé aborder parce que je la connais trop mal. Et en fait, il s'agit de l'inceste. Et j'ai découvert un podcast, en fait, une série qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et du coup, je vais relayer ce grand travail d'une femme qui s'appelle Charlotte Pludlowski et qui a terriblement bien travaillé sur ce sujet. Et du coup, ça va certainement vous donner envie aussi d'écouter ces podcasts, je pense. Donc sujet très fort, sujet très douloureux, sujet complètement tabou. Donc voilà, qui est Charlotte donc Pudlowski. Elle a donc écrit cette série qui s'appelle « Ou peut-être une nuit ». Et vous la trouvez, je pense, un peu partout. Moi, je l'ai trouvée facilement. Enfin, je l'ai trouvée sur Deezer, mais je pense qu'on peut trouver sur beaucoup de plateformes de podcast. Donc, Charlotte Pudlowski décortique la fabrique du silence autour de l'inceste. Donc, elle a bénéficié, ses podcasts ont bénéficié du soutien d'une fondation, qui est la fondation Kering, qui lutte depuis 2008 contre les violences faites aux femmes et s'engage dans la prévention des violences sexuelles dès le plus jeune âge. Elle a d'ailleurs permis la création d'une nouvelle unité pour les victimes d'inceste à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Et c'est dans ce cadre que la fondation Kering a souhaité accompagner la création de ce podcast. Donc 6 podcasts. Alors, je vais vous faire écouter ensuite donc quelques extraits qui, je pense, vous donneront envie de les connaître, de les écouter, où vous verrez comment elle en parle. J'aime beaucoup la façon qu'elle a d'en parler. Enfin, voilà, bref. Alors, premier podcast. Le titre, c'est « Ce que ma mère ne m'avait jamais dit ». Donc, ce que je vous cite là, en fait, c'est elle qui l'a écrit, en fait. Ce sont des textes écrits par elle. Donc, dans le premier épisode, je m'interroge sur le silence qui a tenu des décennies dans ma famille autour des violences incestueuses. Comment est-il possible que même dans les familles les plus aimantes, celles dans lesquelles la parole semble circuler, certaines histoires de violence restent indicibles? Cette question m'a taraudée pendant des mois et des années après avoir su. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'inceste, pour comprendre pourquoi ce silence, pourquoi même dans une famille qui me semblait propice à laisser émerger tous les récits, et malgré notre relation très fusionnelle à ma mère et moi, le silence sur ce sujet gagnait toujours. Qu'est-ce qu'elle charrie, la parole sur l'inceste, que tout le monde veuille l'étouffer, l'ignorer? Qu'est-ce qu'elle a de tellement subversif? Donc dans ce podcast, Charlotte Pudlowski interroge donc le silence des victimes, les mécanismes de peur, de honte, de dissociation qui les font taire, et elle utilise des témoignages donc de sa mère qui a donc subi l'inceste, et d'autres femmes qui s'appellent Julie Daniela, et aussi le témoignage de la psychiatre Muriel Salmona. Le deuxième podcast s'intitule « Apprendre à se taire ». Donc Charlotte Pudlowski décortique dans ce deuxième podcast la manière dont on enseigne aux victimes d'inceste à se taire par cercle concentrique. L'agresseur d'abord, qui menace ou manipule pour s'assurer du silence de sa victime, puis les proches, et enfin la société tout entière. Elle dit « Je n'imaginais pas, je n'aurais jamais imaginé à quel point le silence qui entoure l'inceste est bien construit. » À quel point il est méticuleusement instauré. Je ne soupçonnais pas que le mutisme de ma mère avait été fabriqué consciencieusement par tout un fonctionnement familial. Et ce qui m'a étourdie, c'est de voir à quel point, de famille en famille, ces silences se ressemblent. Tissés par des stratégies différentes, mais par la même violence systématique. C'est une guérilla du silence. Ces soldats sont innombrables. Donc Charlotte Pudlowski interroge notamment l'anthropologue Dorothée Ducy, qui est autrice du Berceau des dominations, Tal Merx, qui est doctorante en philosophie, Hélène Merlin, réalisatrice, et Julie, Laure, Randall et Daniela. Le troisième podcast s'intitule « L'ampleur du problème ». Donc, dans ce troisième épisode, elle analyse les chiffres. Elle dit « Je crois que c'est pendant cet automne 2017 que je fais le lien, le parallèle entre le silence qui entoure encore l'inceste et celui qui a entouré le viol des femmes adultes jusqu'ici. Que j'envisage l'expression « culture de l'inceste » comme on parle désormais de « culture du viol ». Je crois que c'est là que je me mets à pressentir que les histoires semblables à celles de ma mère sont peut-être légion. Mais de même que les histoires de viol sont longtemps restées tues, celles d'inceste le sont encore. Charlotte Pudlowski s'entretient notamment avec la statisticienne Alice Debauche, la psychiatre Muriel Salmona et l'anthropologue Dorothée Ducy qui explique puisque statistiquement, l'âge moyen au premier viol est de 9 ans pour les enfants, 7 à 10% des enfants agressés sexuellement dans leur famille, eh bien, ça donne que dans une classe de CM2, où l'âge c'est à peu près 9 ans, sur 30 enfants, vous avez 3 enfants victimes d'inceste. Donc je vais vous faire écouter, j'espère que voilà, ça va bien marcher. Donc un premier extrait de ce podcast qui dure 3 minutes et puis ensuite suivi d'un deuxième extrait. Donc premier extrait qui vous parle de la découverte, la stupéfaction, donc de comprendre à quel point ce problème est énorme. Voilà.
Depuis l'automne 2017, les histoires d'inceste me sautent au visage. Toutes les semaines, j'en découvre. Quels efforts j'ai dû faire pour rester aveugle jusque-là. Je tombe sur un article consacré aux grandes actrices hollywoodiennes et j'apprends que Rita Hayworth a été violée par son père pendant des années. Je lis un vieux papier sur mon temps, il a agressé sa fille adoptive. Une journaliste de la rédaction travaille sur Louise Bourgeois et j'apprends que l'artiste a aussi été victime de son père. Ce que j'apprends aussi de Nikki de Saint-Phal, qui écrivait à sa fille une lettre pour lui raconter son histoire. Elle finissait par ce viol subi à 11 ans,
me condamna à un profond isolement pendant de longues années.
Durant de longues années.
À qui aurais-je pu me raconter ? J'ai appris à assumer et à survivre avec mon secret. Cette solitude forcée créa en moi l'espace nécessaire pour écrire mes premiers poèmes et pour développer ma vie intérieure, ce qui plus tard ferait de moi une artiste. Je t'embrasse, chère Laura, avec beaucoup de tendresse et un regret de n'avoir pas pu te parler de tout ceci pendant que tu étais adolescente. Pourquoi c'est si difficile de parler ?
Je t'aime. Sans cesse, je découvre une personnalité qui, au détour d'une interview, mentionne que sa famille aussi est concernée. Décembre 2018, je lis une interview de la comédienne Corinne Massiero dans Télérama, dans laquelle elle dit
« Côté père, des Rita ayant fui le fascisme est devenu prolo. Côté mère, des journaliers de campagne et des femmes de ménage depuis Louis XIV. Coco des deux côtés est macho et homophobe, avec des violences familiales, conjugales, des incestes. Très vite, être sous le pouvoir d'un adulte m'a semblé intolérable. »
Et puis quelques mois plus tard, l'auteur de livres pour enfants, Claude Ponty, dont on avait plein de livres à la maison, et dont le langage si merveilleusement inventif m'a toujours ravi. Il était invité sur France Inter, dans Remède à la mélancolie.
On peut faire un parallèle avec moi, par exemple.
Oui.
Donc,
vous en parlez dans un roman.
Oui, les pieds bleus. Et puis ailleurs. C'est-à-dire que, bon, j'ai eu violé par mon grand-père. Des fois, on arrive à le dire, mais c'est encore pire de l'avoir dit, parce qu'on se fait foutre dehors, ou on se fait rejeter, ou... Bon, on a trahi tout ce qu'il y avait à trahir.
De lien en lien sur Internet, je suis tombée sur une interview d'Agnès B. chez Marc-Olivier Fogiel, dans Le Divan.
Oui, j'ai dit qu'il m'aimait trop. Voilà.
Elle, c'était son oncle. Ma libraire, qui ne savait pas que je travaillais sur le sujet, m'a conseillé L'Empreinte, ce si beau livre d'Alex Martzano-Lesnevich sur son enfance brisée par les attouchements de son grand-père. Quelques mois plus tard, un attaché de presse m'envoie touchée. Roman graphique d'un jeune auteur, Quentin Zuiton, et l'un de ses personnages a été victime d'inceste. Le même week-end, j'écoute une émission littéraire sur France Inter, une autrice canadienne parle de son premier livre, le récit de sa propre histoire, Inceste. Et puis je l'ai appris de Barbara. C'est connu. Évidemment, tout le monde le sait. Tout le monde autour de moi m'a dit « Bien sûr, Barbara ». Moi, je ne savais pas. Dans ses mémoires posthumes, elle l'écrit.
J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait. Un soir à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret.
Et puis un jour, Hélène Merlin, qui travaillait sur le scénario du film sur son histoire familiale, m'a envoyé le livre de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations. En introduction, on peut lire «
Tous les jours, près de chez vous, un bon père de famille couche avec sa petite fille de 9 ans. ou parfois elle lui fait juste une petite fellation.
C'est là que l'idée du fait divers a été définitivement écartée. Qu'il est devenu évident que tous les exemples qui s'accumulaient autour de moi n'étaient pas des hasards, des effets d'optique, d'une obsession nouvelle de ma part. L'inceste n'a rien du fait divers. Mais les silences sont si bien gardés qu'il faut faire l'effort d'aller regarder les innombrables preuves pour l'admettre et pour accepter que ce tabou de l'inceste est celui d'en parler, pas de le commettre. Dans les années 70, l'autrice féministe Louise Armstrong publie un livre révolutionnaire, Kiss Daddy Goodnight. On pourrait traduire le titre par « Fais un bisou à papa » ou « Dis bonne nuit à papa ». Il mêle son histoire personnelle, l'inceste qu'elle a subi, et tous les témoignages de femmes qu'elle a recueillis. Elle note alors « Un vrai tabou porte en lui une vraie dissuasion ». Elle compare l'inceste et le cannibalisme et s'interroge. Quel genre de tabou est-il s'il est si souvent enfreint ? Mais c'est quoi souvent ? J'ai discuté de chiffres avec Alice Debauche, sociologue et statisticienne. La première fois que je l'ai contactée, elle m'a répondu par un mail qui disait « Je suis actuellement en congé maternité et sur le point d'accoucher, autrement dit, pas hyper disponible mentalement pour évoquer ces sujets. » J'ai cru que le silence allait encore sévir, et puis mon travail s'est prolongé.
D'accord.
Et on a fini par s'appeler, un matin de septembre.
Oui, bien sûr. Alors, je suis Alice Debauche, je suis sociologue et maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Strasbourg. Et je travaille depuis très longtemps sur les violences sexuelles, depuis un peu plus de 15 ans.
Je lui ai demandé si vous deviez décrire l'ampleur du problème, comment est-ce que vous en parleriez ?
Alors, comment est-ce que j'en parlerais ? Alors, je vais avoir une réponse qui est liée à la façon dont je suis entrée dans la question de l'inceste, qui est ce travail sur les violences sexuelles en général. Et j'ai vécu la découverte de l'inceste. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler sur les violences sexuelles avec cette entrée des viols collectifs dans les banlieues. Donc, quand on me parlait de violences sexuelles, je voyais le viol de femmes adultes. Et puis quand j'ai commencé à travailler sur les données, à lire un peu ce qui existait et à regarder qui étaient les victimes de violences sexuelles, bah, j'ai découvert la réalité de l'inceste. Alors à partir de là, j'ai beaucoup lu de témoignages de victimes parce qu'une partie de ma thèse consistait à analyser les archives du collectif féministe contre le viol, ce qui m'a conduit à lire leurs fiches et à lire énormément de récits de victimes qu'elles pouvaient avoir dans leurs archives. Voilà, travail sur archives, j'ai commencé par les plus anciennes. Le numéro anonyme et gratuit SOS Viol Information a été ouvert en 1986, donc j'ai commencé à ouvrir les cartons d'archives et puis à lire un récit sur cinq. C'était ce que je m'étais fixé pour avoir la possibilité concrète de lire les récits et une vision un peu exhaustive sans tout lire parce que c'était matériellement impossible. Et donc j'ai lu un premier récit de violence sexuelle incestueuse et je savais, pour avoir lu un peu des travaux statistiques, que ça existait. Donc j'étais pas complètement surprise. Et puis j'ai continué à ouvrir les cartons et à lire un sur cinq. Et puis au bout de quelques heures, je me suis rendu compte que la majorité de ce que je lisais, c'était des récits de violence sexuelle incestueuse. Et je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça représentait autant parmi les violences sexuelles. Il y en avait tellement, des récits extrêmement divers, des femmes qui, dans leurs récits, provenaient manifestement de milieux plutôt bourgeois, plutôt aisés, des femmes qui venaient de milieux extrêmement précaires, de tous les endroits de la France, voilà, de toutes formes. Et progressivement, voilà, il y a eu cet effet de masse. Où je me suis dit, bah, en fait, voilà, c'est ça l'inceste, c'est un peu partout, tout le temps, et dans des proportions que je n'aurais pas pu imaginer. Quand j'en parle autour de moi, il y a énormément de personnes qui n'imaginent pas.
Encore aujourd'hui ?
Ah, encore aujourd'hui, oui, bien sûr. Si on sort des espaces des chercheurs sur les violences, des espaces féministes, des espaces de personnes qui ont réfléchi à ces questions pour diverses raisons, les gens n'imaginent pas. Les gens, en fait, n'ont pas envie de le savoir. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup discuté avec les bénévoles et les salariés de l'association, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près toutes, à part celles qui avaient un vécu personnel de l'inceste, elles ont toutes vécu cette découverte, ce moment un peu de stupeur où on se rend compte que le phénomène existe et qu'il concerne énormément de monde.
Voilà. Alors, je vais continuer avec les autres podcasts, vous dire un peu, puisque je vous ai dit, il y a 6 podcasts. Donc ça, c'était 2 extraits que j'ai mis à la suite du 3e podcast pour comprendre l'ampleur du problème. Donc le 4e podcast s'intitule « Une histoire de haine et de domination » et il est consacré à l'explication de la nature de l'inceste, un enjeu de domination. Elle dit « Il y a ce mythe qui persiste. L'inceste, ça pourrait être de l'amour mal dirigé, mal exprimé, mal orienté, trop névrosé, trop. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre avec l'inceste, c'est que c'est toujours une histoire de domination, une pièce des dominos de la violence. » Donc dans ce podcast-là, on entendra notamment les témoignages de Julie, de Daniela et de Laure. On explorera aussi le projet Dunkelfeld, le film Marguerite et Julien de Valérie Donzelli ou le livre Kiss Daddy Goodnight de l'américaine Louise Armstrong. Le 5e podcast s'intitule Les poupées russes. Il est consacré au fonctionnement du système politique et judiciaire et à la manière dont il rejoue le silence appris dans les familles. Elle dit « Ce système de violence et de domination installé dans l'intime, permis par la silenciation des victimes, contamine les structures plus larges que la famille. » Dans cet épisode, on entendra notamment Eva Thomas, première femme à avoir parlé publiquement d'inceste à la télévision française, Patrick Jean, auteur de « La loi des pères » aux éditions du Rocher, ou encore l'avocate Dominique Attias, spécialiste du droit des mineurs et des violences contre les femmes. On évoquera aussi l'affaire Outreau, l'influence des masculinistes sur la société française et la problématique du syndrome d'aliénation parentale, un faux syndrome qu'ils ont créé de toutes pièces pour décrédibiliser les femmes dont les enfants sont victimes de violences intrafamiliales. Donc c'est vrai que j'avais entendu parler, donc ceux qui connaissent pas ce syndrome d'aliénation parentale, il a été inventé par un faux psychiatre américain qui en fait s'est inventé des faux diplômes et tout ça, mais qui a eu beaucoup de succès, ce qui devait être très fort pour se faire connaître en fait, et qui malheureusement a utilisé par la justice, même si c'est dénoncé. Et en fait, en gros, ce syndrome concernerait que les femmes qui aliéneraient leurs enfants. Voilà, donc en fait c'est quelque chose qu'utilise la justice pour décrédibiliser les femmes qui dénoncent des incestes, et bien du coup la justice se retourne contre ces mères en disant mais non, vous inventez n'importe quoi et vous êtes en train d'aliéner votre enfant, c'est vous qui l'avez manipulé, etc. Malheureusement on m'a raconté que oui, ça c'est arrivé et c'est vraiment incroyable quoi. J'ai des amis féministes qui ont accompagné des femmes en procès, en justice, parce qu'elles avaient osé dénoncer un inceste et puis la justice s'est retournée contre elles et a pu même quelquefois leur retirer leur enfant et même le confier au père incestueux. Voilà. Alors, le 6e podcast s'intitule « Le monde que construit l'inceste ». Donc c'est un épisode qui est consacré à l'ordre social installé par l'inceste, l'ordre social du silence, notre univers psychique commun. C'est ça que construit l'inceste au commencement des vies. Il dessine nos trajectoires d'hommes et de femmes et c'est extrêmement difficile et douloureux de changer les trajectoires que la norme dessine pour nous. Donc je vous rappelle que tout ce que je lis, ce n'est pas de moi, donc c'est de Charlotte Pudlowski. Donc je cite ce qu'elle dit sur cela, elle dit « Il faut imaginer une route, je l'imagine, large, recouverte d'asphalte, bordée de ravins. C'est la norme. Vous êtes une femme fragile, craintive, silencieuse. Vous respectez les hommes, vous respectez leur pouvoir, leur autorité. Et sur cette même route marchent toutes les autres femmes, ou disons leur écrasante majorité. Vous ne marchez pas seule, vous marchez avec elles. Au-dessus de vous plane la violence, mais vous ne la regardez pas. Vous marchez les yeux rivés au sol. S'écarter de la norme, c'est s'écarter de cette route. C'est risquer de tomber dans les ravins. C'est marcher sur un sentier escarpé, abrupt, plus difficile à fouler. C'est marcher avec moins de monde, peut-être seul parfois. S'écarter de la norme, c'est risquer l'exclusion, risquer d'être rangé dans le pathologique. C'est risquer de regarder en face la violence qui plane et qu'on ne pourra plus oublier. C'est risquer la douleur ou la culpabilité si l'on ne fait rien. C'est risquer l'épuisement si on se bat. C'est risquer la solitude, car la majorité restera sur la route de la norme. La solitude, c'est une menace vertigineuse pour les femmes comme pour les hommes qui ont aussi leur route d'asphalte, la route du pouvoir et de la force. Pour ne pas être seul, chacun doit prendre sa place sur la route de la majorité. Un homme doit prendre pleinement sa place de dominant. Une femme, le siège de la peur, de la faiblesse. L'inceste installe les deux. Dans ce sixième épisode, on entendra notamment le témoignage de Lydia et les propos de Dorothée Ducy, Patrick Jean, Muriel Salmona, qui est psychiatre. Voilà, donc je suis assez émue de lire ce texte magnifique et impressionnée par ce travail. Donc j'ai appris donc grâce à elle dans le troisième podcast, c'est un extrait dont je ne vous ai pas fait passer, mais j'espère que vous les écouterez comme moi. Donc j'ai appris beaucoup de choses, notamment que la notion d'inceste dans le code pénal n'existe que depuis 2010. Incroyable. Et qu'il avait été d'ailleurs enlevé aussi du code pénal ensuite, puis remis en 2016 seulement. Voilà. Et voilà, je suis, donc je pense bien à Charlotte Pudlowski. C'est, elle raconte qu'elle a eu des moments, j'imagine bien, où elle avait envie d'oublier complètement, puisque c'était trop douloureux et qu'elle ne voulait plus penser à ce sujet et l'enlever de sa tête, parce que c'était trop douloureux. Mais qu'en fait, ce sujet lui revenait sans arrêt dès qu'elle ouvrait un livre, dès qu'elle regardait un film. Une fois qu'elle avait ouvert les yeux sur ce sujet, eh bien, c'est un sujet qui, malgré elle, lui revenait. Et du coup, elle ressentait l'envie de faire tout exploser. Voilà. Et bref, je vous encourage à l'écouter. Voilà, donc je regarde le temps qui me reste. Il me reste peu de temps. Donc... du coup, je vais... je pensais vous parler de plusieurs choses, mais je n'en ai pas le temps, donc je le ferai une prochaine fois. En fait, je vous parlerai aussi de Muriel Salmona, cette psychiatre qui est citée dans ce sujet, qui s'intéresse tout à fait aux violences sexuelles. C'est une personne remarquable. C'est une personne, Muriel Salmona, qui a fait partie des médecins qui ont lutté pour la loi abolitionniste, la loi 2016 de la prostitution. Et donc... cette loi qui malheureusement est toujours attaquée par les réglementaristes, même si ils sont ça aussi c'est un sujet, la prostitution terriblement douloureux. Donc je crois que là que j'ai pas le temps de vous en reparler, donc j'en reparlerai une prochaine fois. Mais il y a un lien entre tout ça, entre les violences sexuelles, entre la pédocriminalité et la prostitution, mais je le ferai la prochaine fois. Voilà, alors en attendant, donc, je vais choisir de vous parler d'un livre qui est très beau et qui est sorti en septembre dernier, donc il n'y a pas longtemps, que je ne connaissais pas et qui a été la surprise du Goncourt. J'en suis très très heureuse. Un livre de Djali Amadou Amal, une femme camerounaise qui parle du mariage forcé qui est pour elle la plus pernicieuse des violences. Donc ça a été une surprise du Goncourt 2020. Donc cette femme, Djali Amadou Amal, était encore assez inconnue en France. Son roman d'inspiration autobiographique s'intitule « Les impatientes ». Il aborde donc un sujet sensible des mariages précoces et forcés et l'enfer de la polygamie. Donc voilà ce qu'elle dit sur son roman, je la cite. « Ce roman a déjà été publié en Afrique sous le titre « Munial, les larmes de la patience ». Munial est un terme peul qui signifie patience. L'éditrice française Emmanuelle Collat a souhaité le publier. Nous avons voulu lui donner un titre plus fort qui correspondait davantage à ces héroïnes qui refusent de se conformer aux règles. Ce sont trois femmes confrontées à la violence qui prennent tour à tour la parole pour exprimer ce qu'elles ressentent. Il y a d'abord le personnage de Ramla qui subit un mariage précoce et forcé avec un homme d'une cinquantaine d'années. Il y a sa sœur Hindou, mariée le même jour avec un cousin, drogué et alcoolique, avec le silence complice de toute la famille, qui espère ainsi canaliser la violence du jeune homme. Enfin, il y a Safira, à qui son mari impose une co-épouse, plus jeune que sa fille, après 20 ans de mariage. Cette co-épouse est justement la jeune Ramla. Donc Ramla et Safira donc, sont les co-épouses. Alors dans ce livre, elle montre voilà, comment la relation entre les deux femmes, co-épouses Safira et Ramla, évolue. Elle dit « Au début, Safira est persuadée que Ramla veut la supplanter dans le cœur et le lit de son époux. Elle met en œuvre 1000 stratagèmes pour obtenir son départ. Quand elle comprend que la jeune fille ne lui veut pas de mal, qu'elle souffre aussi de la situation, c'est trop tard. » Chacune des trois femmes du roman essaie d'échapper comme elle peut au poids de la coutume et des traditions, par la folie, la ruse ou la fuite. Je veux rappeler ici que le mariage précoce et forcé est la plus pernicieuse des violences puisqu'elle entraîne toutes les autres. Elle entraîne le viol conjugal, les violences physiques, économiques et psychologiques. Alors, il faut savoir que cette autrice a été elle-même, mariée de force. Donc voilà ce qu'elle dit. Donc elle a connu des situations tout à fait proches des héroïnes de son roman. Elle dit « J'ai été mariée à 17 ans à un homme politique d'une cinquantaine d'années qui a utilisé son pouvoir pour m'avoir, sans le consentement de mon père. Ce sont mes oncles qui m'ont donné en mariage. J'en ai beaucoup souffert. Je me suis réfugiée dans la littérature pour pouvoir m'en sortir psychologiquement. » Alors voilà comment elle raconte son arrivée dans la maison où elle est arrivée et elle était co-épouse. Elle dit « J'avais l'impression de vivre une scène de film. Est-ce bien moi qui est en train de marier à quelqu'un que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître ? Les filles de ma co-épouse étaient beaucoup plus âgées que moi. Je venais d'entrer au lycée et la seule chose que j'ai pu obtenir était de continuer à aller en cours. Mais imaginez la situation, j'étais en même temps la femme du maire et élève du lycée. Je garais ma voiture à côté de celle du directeur. Les professeurs me vouvoyaient. C'était très bizarre, mais j'avais conscience d'avoir de la chance, car depuis la sixième, mes amis désertaient les bancs de l'école pour se marier les unes après les autres. Moi, au moins, je pouvais continuer à étudier. En terminale, nous étions à peine 5 filles pour une trentaine de garçons. » Alors, elle est partie seule, finalement, elle a réussi à partir seule avec ses deux petites filles. Voilà ce qu'elle en dit. « À un moment, comme Ramla dans le roman, j'ai compris qu'il fallait absolument partir de là si je voulais devenir ce que je rêvais de devenir, c'est-à-dire une jeune femme normale vivant au XXIe siècle. C'était une décision difficile mais nécessaire pour ma propre survie. J'avais déjà 2 filles et je me suis demandé ce qu'elles deviendraient si je ne faisais rien. La réponse était simple. À 14 ou 15 ans, on les aurait mariés sans que je puisse rien faire pour les protéger. Je suis allée chez mon frère et dans un premier temps, j'ai confié mes filles à ma mère. Puis mon ex-époux les a fait kidnapper et je ne les ai pas vues pendant plus de 2 ans. C'était une épreuve très dure. Aujourd'hui, nous avons surmonté cela toutes les trois. Ma fille est née à 20 ans, elle est en licence de droit, la cadette a 19 ans et vient d'entrer à l'université. Elle hésite entre la psychologie et le management. Je suis très fière des jeunes femmes qu'elles sont en train de devenir. Quant à moi, j'ai refait ma vie. » Alors, qu'en est-il des lois, en fait, qui devraient normalement empêcher les mariages précoces au Cameroun ? Voilà ce qu'elle en dit. « La constitution camerounaise interdit le mariage des filles avant l'âge de 16 ans, mais cette loi n'est pas respectée. Les filles subissent des mariages religieux et coutumiers qui le plus souvent ne sont pas suivis de mariages civils. Elles sont de simples concubines et lorsqu'elles sont répudiées, elles n'ont droit à aucune pension alimentaire. Quelquefois, leurs enfants ne sont même pas reconnus. » Donc finalement, elle est devenue une écrivaine engagée. Elle dit « Après l'apparition de mon premier roman, il y a 10 ans, j'ai créé l'association Femmes du Sahel pour encourager la scolarisation des petites filles. Nous parrainons des filles en prenant en charge leur scolarité. Nous faisons beaucoup de causes rééducatives avec les parents, aussi bien les mères que les pères, pour leur faire comprendre l'importance de l'éducation. Nous sensibilisons les filles à l'importance de continuer leurs études, d'avoir un diplôme, d'apprendre un métier. » Nous leur apprenons aussi à se prémunir contre les violences, parce que l'obstacle à l'éducation des filles au-delà des mariages précoces et forcés, ce sont les violences auxquelles elles sont confrontées à l'école et sur le chemin de l'école. Alors, petite note pour compléter que je vous fais sur les mariages forcés. Eh bien, c'est la réalité dans de nombreuses régions du monde. Les conséquences sont dramatiques, atteinte à la liberté, à l'intégrité, chantage affectif, rupture familiale, séquestration, déscolarisation, grossesse précoce, grossesse à risque, violence conjugale, dépression. Dans les pays en développement, une fille sur trois est mariée avant l'âge de 15 ans. 650 millions de femmes actuellement en vie ont été mariées pendant leur enfance. Chaque année, environ 12 millions de filles voient leur enfance voler en éclats. Leur perspective d'éducation et d'avenir étant réduite à néant. Et je tiens à rappeler aussi quelque chose qui moi m'a semblé incroyable quand je l'ai appris, donc je pense que ça le sera aussi pour vous, il y a très peu de personnes qui le savent, c'est que en France, ça se passe en France, eh bien c'est seulement en 2005 que l'âge minimum légal pour autoriser le mariage des jeunes femmes est passé de 15 à 18 ans. Et figurez-vous que depuis le code civil napoléonien en France, qui était en vigueur depuis 1804, il y avait une différence d'âge du mariage qui était de 18 ans révolu pour les hommes et de 3 ans plus jeune pour les femmes. Donc ça... Voilà, et ça a évolué donc en 2005, notamment grâce à une marche des filles en fait qui a eu lieu en 2003 dans les quartiers. Il y a eu un débat sur la condition des filles dans les quartiers qui s'imposait, et Ni Pute Ni Soumise a organisé une marche des femmes des quartiers pour l'égalité et contre les ghettos, pour libérer la parole. Et grâce à cette marche, en fait, cette marche il y avait le débat sur ce mariage des filles, parce que en fait, dans les quartiers, cette loi en fait qui permettait de pouvoir marier une fille à 15 ans, elle concernait beaucoup de filles de ces quartiers, avaient été mariées de force, en fait. Voilà, pour des raisons par rapport liées au changement, par rapport à l'immigration, etc. Donc voilà, et du coup, c'est le combat de ces filles des quartiers qui a permis, en fait, il faut se le rappeler, l'évolution de cette loi complètement archaïque française. Voilà, donc je vais vous laisser puisque c'est l'heure, mais juste, j'ai aussi oublié de dire une revendication que nous avons, comme j'ai parlé de l'inceste, donc des violences aussi sexuelles faites aux enfants. Eh bien, rappelez qu'il y a eu un échec total dans la loi Chapa, qui fait que les féministes avaient demandé d'éviter que des enfants de moins de 15 ans soient considérés comme consentants à des pénétrations sexuelles commises par des adultes. Et d'éviter que les viols avec les enfants de moins de 15 ans soient décriminalisés, eh bien, la notion de seuil, d'âge légal de non-consentement n'a pas été faite. Donc ça n'a jamais, alors que c'était en projet, voilà, ça n'a jamais été accepté. Et voilà, et donc c'est dramatique pour les jeunes. Donc sachant que déjà il n'y a que 10% des viols déclarés de femmes qui sont criminalisés, enfin qui vont à la cour d'assises. Et bien pour les jeunes, pour les enfants, c'est encore pire. L'impunité est encore plus totale, puisque et voilà, dans les faits, c'est complètement terrible. Il y a eu des viols sur mineurs, d'ailleurs dont plusieurs en situation de handicap, qui sont passés non aux assises mais en correctionnel, qui sont passés en atteinte sexuelle assortie de peines très faibles, avec des fillettes de 9 ans, donc ça s'est passé au tribunal correctionnel de Saint-Malo, fillettes de 12 ans à la cour d'assises de Douai, de 13 et 14 ans donc au tribunal de Saint-Brieuc, où en fait c'est incroyable, mais ces enfants, ces fillettes, on a déclaré qu'elles pouvaient être consentantes, elles n'ont pas réussi, la justice patriarcale n'a pas défendu ces fillettes en disant que elles peuvent pas être consentantes à cet âge-là, je veux dire. Voilà, c'est ça qu'on demandait ces filles. Donc c'est incroyable qu'une fillette doive se défendre et montrer qu'elle n'est pas consentante. C'est affreux de demander ça à une petite fille. Voilà, donc je vous laisse, je vous remercie d'avance de votre écoute, de votre soutien. N'hésitez pas à me faire des propositions pour cette émission. Vous pouvez me contacter, je suis ouverte aux propositions sur le Facebook Révolution Féministe Marseille. Voilà, à bientôt.
Nous qui sommes un passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes.